êtes bien sur Radio France Internationale. Il est midi en temps universel, 14h ici à Paris.
RFI Midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Pierre Boudias.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
2 millions de personnes sont affamées dans la bande de Gaza.
Alerte de l'Organisation mondiale de la santé au lendemain du début d'une nouvelle offensive terrestre dans l'enclave palestinienne. Vous entendrez le témoignage d'un Gazaoui contraint une nouvelle fois de fuir les bombardements. Candidat pro-européen et nationaliste au coude à coude en Pologne, Rafał Trzaskowski et Karol Nawrocki, séparés de seulement 2 points à l'issue du premier tour de la présidentielle. Nous serons à Varsovie dans ce journal. L'avenir de l'Ukraine se joue peut-être au bout du fil aujourd'hui. Entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine prévu cet après-midi. Le président américain déterminé à obtenir des résultats fait savoir son entourage. Et puis les États-Unis sous le choc de l'annonce du cancer de Joe Biden. Le scandale des eaux en bouteille fait rage en France et un jeune réalisateur malien pour la première fois sur le tapis rouge de Cannes s'est à retrouver dans cette édition.
Benjamin Netanyahou persiste et signe, il vise un contrôle total d'Israël sur la bande de Gaza.
Déclaration ce matin du premier ministre israélien au lendemain du lancement d'une nouvelle offensive terrestre sur l'enclave palestinienne. Une opération baptisée les chariots de Gédéon qui doit également permettre d'éradiquer le Hamas et de libérer les otages toujours détenus par le mouvement palestinien, assure son gouvernement. Elle s'accompagne de bombardements massifs qui ont fait plus de 160 morts durant les dernières 24 heures selon le ministère de la Santé palestinien. Des civils déjà éreintés par plus de 19 mois de conflit, témoignage d'un habitant de l'enclave recueilli depuis Jérusalem par Sami Boukhelifa.
Le nord de la bande de Gaza rayé de la carte. Après des mois de bombardements intensifs, l'armée israélienne fait sauter à l'explosif quasiment une par une les carcasses des maisons déjà en ruine. Les bulldozers et les engins de terrassement finissent le travail de démolition en recouvrant les décombres, des villes entières transformées en terrain vague. Il y a 24 heures, Mohamed, un habitant du nord, a dû se résoudre à fuir sans trop savoir où aller.
Dans le nord, la situation est catastrophique. Ils nous ont interdit de rester sur nos terres. Pour nous pousser à partir, ils nous ont bombardés. On est parti sous un feu nourri. De toute façon, je n'ai plus de maison. On a rassemblé les quelques affaires qu'il nous reste et on est venu ici, dans le centre de la bande de Gaza, à Nusayrat.
Les mêmes scènes de chaos dans le sud de la bande de Gaza. Israël s'empare des terres palestiniennes. La région est vidée de ses habitants. La population est bombardée et affamée. Depuis 80 jours, Israël interdit l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. On ne mange plus qu'une fois tous les 2 ou 3 jours, raconte Mohamed.
On n'en peut plus. J'aimerais juste pouvoir avoir un bout de pain pour mes enfants et tous ces pays à l'étranger, hypocrites et complices qui ne veulent rien faire pour stopper ça et pour protéger les civils innocents. Nous n'avons rien à voir avec cette guerre. En tant que Palestiniens, en tant que Gazaouis, nous n'avons rien fait pour mériter ça.
Sous pression de Washington, le Premier ministre israélien annonce autoriser une reprise limitée de l'aide humanitaire. Benjamin Netanyahou est recherché par la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Et dans ce contexte, le chef de l'Organisation mondiale de la santé s'indigne que près de 2 millions de personnes soient selon lui aujourd'hui affamées dans la bande de Gaza. Tedros Adhanom Ghebreyesus dénonce la rétention par Israël de tonnes de nourriture à la frontière. L'ONU dit à l'instant être en négociation avec Israël pour le retour de cette aide humanitaire dans la bande de Gaza.
Et dans ce contexte, comment survit-on à Gaza? Nous serons en ligne dans quelques minutes avec le journaliste palestinien Rami Abou Jamous en direct du territoire palestinien. 14h04 à Varsovie, le candidat pro-européen en tête du premier tour de la présidentielle en Pologne.
Très courte avance pour Rafał Trzaskowski à l'issue du scrutin hier. Le maire de Varsovie devance de seulement 2 points son adversaire nationaliste, l'historien Karol Nawrocki. Daniel Wallo, vous êtes dans la capitale polonaise, le second tour s'annonce donc extrêmement serré.
Oui, avec un candidat libéral, le maire de Varsovie, qui n'est pas dans la meilleure des positions. Sur le papier, c'est plutôt le candidat conservateur du PiS qui dispose des meilleures réserves de voix. Il a rassemblé quasiment 30% des suffrages. Et les deux candidats d'extrême droite, Slawomir Mentsen et Diegor Braun, ont obtenu 20% des voix à eux deux. Techniquement, si toutes les voix d'extrême droite se reportent sur le candidat du PiS, eh bien celui-ci pourrait l'emporter au second tour. À gauche et au centre, les réserves de voix sont nettement inférieures, car c'est l'autre mauvaise surprise de la soirée pour le camp libéral. Les alliés de la plateforme civique ont fait moins bien qu'espéré. C'est le cas en particulier du chrétien-démocrate Szymon Hołownia. Il a fait moins de 5%, alors qu'en 2020, il rassemblait 13% des suffrages. La bataille de l'entre-deux-tours va donc se jouer sur le report de voix dans chacun des camps, ce qui n'a rien d'évident car les candidats éliminés à l'extrême droite comme à gauche n'ont pas donné pour l'instant de consigne de vote. Cette bataille va se jouer également sur les abstentionnistes, c'est sans doute là que le candidat pro-européen a une carte à jouer en présentant ce second tour comme décisif pour l'avenir de la Pologne au sein de l'Union européenne.
Un second tour qui est donc prévu le 1er juin. Daniel Valo, merci. Vous étiez en direct de Varsovie pour RFI. La France nie toute ingérence dans l'autre élection présidentielle qui se jouait hier, second tour du scrutin en Roumanie, avec la victoire du candidat pro-européen Nicu Jordan, accusé par le fondateur de la messagerie Telegram, Pavel Durov, de pression pour le pousser à supprimer des messages du camp conservateur. La DGSE, les services secrets français, démentent ce matin fermement ces accusations.
Donald Trump poursuit aujourd'hui sa diplomatie du coup de fil.
Entretien téléphonique prévu d'ici 2 heures entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine, officiellement le troisième depuis son retour à la Maison Blanche. La question de l'Ukraine sera bien sûr au centre de cette discussion qui sera suivie d'un autre entretien avec Volodymyr Zelensky, les dirigeants de l'OTAN. Anastasia Becchio, bonjour.
Bonjour.
Après des discussions infructueuses en Turquie la semaine dernière, toutes les parties tenteront de faire avancer leur pion.
Oui, responsables russes et ukrainiens tentent chacun de leur côté de faire basculer le rapport de force à leur avantage auprès de Donald Trump. À quelques heures du coup de fil, le porte-parole du Kremlin évoque une conversation importante. La Russie continue d'exiger la neutralité de l'Ukraine et la reconnaissance des annexions des 4 régions qu'elle n'a pas entièrement conquises. 2 exigences bien sûr rejetées par l'Ukraine. Elle cherche aussi à gagner du temps alors que ses troupes continuent de grignoter du terrain. Enfin, la Russie voit en Donald Trump le seul dirigeant occidental en mesure d'alléger les sanctions, même si le président américain a menacé de les augmenter si Moscou ne prenait pas au sérieux les pourparlers de paix. Ce matin, le porte-parole du gouvernement allemand a d'ailleurs affirmé que le chancelier Merz travaillait à l'instauration de nouvelles sanctions avec ses partenaires européens et américains. Hier soir, les dirigeants français, britanniques, allemands et italiens se sont entretenus par téléphone avec le président américain. Selon Downing Street, Donald Trump, qui se pose en faiseur de paix, espère que ces initiatives aboutiront à un progrès vers un cessez-le-feu, un optimisme que ne partagent pas les observateurs, comme la chercheuse Tatiana Stanovaya, qui évoque sur les réseaux sociaux des attentes exagérées et dit ne pas s'attendre à une percée.
Anastasia Becchio. Et dans ce contexte, la Russie annonce l'interdiction de l'ONG Amnesty International sur son sol. Elle est déclarée indésirable par le parquet russe qui l'accuse de mener des opérations russophobes depuis son siège londonien. Londres qui salue avec l'Union Européenne une nouvelle ère dans les relations européo-britanniques. Le Royaume-Uni et les 27 ont conclu ce lundi plusieurs partenariats clés après plusieurs jours de discussions et quelques heures avant un sommet inédit entre le Premier ministre britannique Keir Starmer et les dirigeants des institutions européenne. Emeline Vin, vous êtes dans la capitale britannique pour RFI. Un accord a donc été conclu pour redémarrer le logiciel des relations post-Brexit.
Oui, un accord un peu fourre-tout qui reprend à peu près tous les sujets de discorde liés au Brexit. Alors c'est un peu technique, donc on va essayer de rester concret. Déjà, côté victoire pour le Royaume-Uni, ça se passe aux frontières. Les Britanniques vont pouvoir utiliser les portails automatiques de contrôle des passeports dans les aéroports, beaucoup plus rapide que les contrôles manuels, et une partie des vérifications phytosanitaires seront allégées, voire abolies, ce qui devrait faciliter le commerce, en échange d'un certain alignement des normes. Un partenariat sécuritaire et de défense a également été conclu avec l'Union européenne. Évidemment, il a aussi fallu faire des concessions. Là encore, on n'a pas beaucoup de détails, mais le Royaume-Uni ouvre la voie à un nouveau programme de mobilité étudiante pour les jeunes européens. Et surtout, il accorde aux pêcheurs européens l'accès à ses eaux pendant 12 ans. Ce dernier point pourrait engendrer une forte opposition au Royaume-Uni, la pêche étant l'un des gros symboles des Brexiteurs.
Mais alors Emeline, cet accord, c'est presque une surprise, non ?
Bah, d'un côté, le Premier ministre Keir Starmer a fait du réchauffement des relations avec l'UE une priorité de son mandat. Et c'est tout l'enjeu de cette réunion. En même temps, le gouvernement a vraiment tenté ces derniers jours de réduire au maximum les attentes en amont de ce sommet, en rétrogradant même la localisation des réunions. Tout cela, ça permet ce lundi à Keir Starmer de revendiquer une victoire inattendue et franchement bienvenue dans un contexte intérieur compliqué pour le chef du gouvernement.
Émilie va en direct de Londres. Le Royaume-Uni qui dit espérer 9 milliards de livres de retombées d'ici 2040 grâce aux nouvelles mesures négociées par les deux parties. Un accord qui intervient alors que la Commission européenne revoit fortement à la baisse ses prévisions de croissance dans la zone euro à 0,9% en 2025, conséquence de la guerre des droits de douane initiée par Donald Trump. Le président américain, il se dit attristé par l'annonce du cancer dont souffre son prédécesseur Joe Biden, diagnostiqué d'une forme agressive d'un cancer de la prostate. On fait savoir hier ses équipes, c'est donc son entourage même qui l'a fait savoir. Arim Léopold, bonjour.
Oui, bonjour Pierre, bonjour à tous.
Les médecins restent prudents sur les chances de réussite d'un traitement.
Oui, Joe Biden est atteint d'un cancer de la prostate classé au niveau 9 sur une échelle de 10. C'est donc une forme particulièrement agressive avec déjà des métastases osseuses. Selon le bureau de l'ancien président, le cancer semble être hormonosensible. Ça veut dire une prise en charge pour être efficace de cette maladie. La famille et l'équipe médicale réfléchissent actuellement au traitement le plus adapté. Joe Biden, 82 ans, a quitté ses fonctions en début d'année. Il a reçu de nombreux messages de soutien et de vœux de rétablissement venus de responsables politiques de tous bords, de l'ancien président Barack Obama jusqu'à l'actuel occupant de la Maison-Blanche, Donald Trump, qui, on s'en souvient, n'a pas pourtant toujours été très tendre avec son prédécesseur. Pour les démocrates, cette annonce tombe au plus mauvais moment. Elle ravive les critiques sur la gestion du déclin physique et cognitif de Joe Biden, au cours de ces derniers mois à la Maison-Blanche. Un livre-enquête qui doit paraître demain, signé par deux journalistes, affirme d'ailleurs que l'entourage de l'ancien président aurait longtemps dissimulé la dégradation de son état de santé, des accusations que Joe Biden a toujours niées, encore tout récemment dans une interview.
Arim Léopold, merci beaucoup. Autre réaction à cette annonce hier, celle de l'ancienne vice-présidente Kamala Harris qui se dit confiante et estime que Joe Biden, je cite, est un battant.
En France, la tempête continue de faire rage dans les verres d'eau.
Le scandale des eaux minérales continue dans le pays alors qu'après 6 mois d'enquête et plus de 70 auditions, une enquête sénatoriale accuse l'État de dissimulation alors que le géant suisse Nestlé a reconnu l'usage de traitements interdits sur plusieurs de ses marques. Les autorités sont accusées d'avoir fermé les yeux sur les pratiques de Nestlé. Nicolas Feldman, bonjour.
Bonjour Pierre.
Alors si les parlementaires pointent les largesses de l'État dans cette affaire, le rapport vise aussi à faire la lumière plus largement sur les pratiques des industriels de l'eau.
Oui, parce que le droit européen aujourd'hui, il est plutôt clair, il est très clair, même l'eau minérale naturelle ne doit être ni désinfectée, ni même traitée. Or, c'est justement tout ce qui est reproché au groupe Nestlé. Dès 2020, le géant suisse reconnaît l'usage de traitements interdits sur plusieurs de ses marques de bouteilles, Perrier, Épar ou Contrex. Nestlé promet alors d'y remédier sans pour autant tout à fait se conformer à la loi. Un scandale, Pierre, révélé par la presse et qui pourrait n'être en fait que la partie émergée de l'iceberg. Dans un rapport en 2022, l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, estimait que 30% des marques d'eau en bouteille subissent des traitements non conformes. La commission d'enquête du Sénat vise donc à mettre un terme à ces pratiques. Les parlementaires listent pour cela 28 recommandations. Ils réclament un meilleur suivi de la qualité des nappes phréatiques, un contrôle plus strict des prélèvements ou encore un meilleur étiquetage des bouteilles. Car au final, l'objectif des sénateurs, il est aussi de restaurer la confiance envers les industriels de l'eau minérale, un secteur qui pèse tout de même chaque année en France près de 3 milliards d'euros.
Nicolas Feldman. Et puis de jeunes pousses sur le tapis rouge de Cannes, la 78e édition du festival qui continue de battre son plein. Et au milieu des grands noms comme Wes Anderson ou Robert De Niro, de jeunes réalisateurs ont également été invités par la Fabrique du cinéma, créée par l'Institut français. Elle a convié 10 cinéastes à présenter leur film. Guillaume Thibault a croisé la route de Moïse Togo.
Né dans le centre du Mali, Moïse Togo a découvert l'image au conservatoire de Bamako. Brillant, posé, à la manière d'un philosophe, le réalisateur cherche avant tout à provoquer le questionnement.
Moi, mon cinéma, je pense que ça sert à questionner la société tout court. Et je donne la possibilité à chacun de s'interroger.
Moïse Togo est venu présenter à Cannes son projet Vaisseau fantôme, documentaire tourné en Casamance au Sénégal, qui fait entendre la voix des familles des migrants disparus.
Avec ces familles-là, il y a aussi la mémoire de ceux qui sont partis. Parfois, c'est un sac. Il y a aussi un arbre aussi qui représente Salif qui est parti depuis plus de 30 ans. Et moi, je montre l'air quotidien.
En venant à Cannes, en multipliant les rencontres, en découvrant les règles du marché, Moïse Togo a la sensation d'entrer dans la matrice du cinéma.
On est à la recherche de partenariats. On est accompagné par l'Institut français. Donc ça nous ouvre des portes, ça nous donne de la force, de l'énergie d'avancer, de raconter des histoires qui nous touchent profondément.
Long processus, Moïse Togo travaille sur la musique de son film. Il aimerait collaborer avec le Sénégalais Baba Mal et il espère diffuser Vaisseau Fantôme en Afrique et dans le monde en 2027. Guillaume Thibault, Cannes, RFI.
Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la suite d'RFI Midi avec Anne Cantner.
Merci Pierre Boudias. La suite, c'est l'actualité sportive. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Du basket pour commencer, tiens, ça change. Aux États-Unis, où l'on connaît les affiches des finales des conférences Est et Ouest en NBA.
On connaissait depuis samedi celle de la conférence Est, les New York Knicks, face aux Pacers d'Indiana, du Camerounais Pascal Siakam. On attendait la nuit dernière le nom de l'adversaire des Timberwolves du Minnesota côté Ouest. Ce sera le Thunder d'Oklahoma City. Moi, je veux être inventeur de noms pour les franchises NBA. Je vais déposer ce métier-là, ça va être vachement sympa. Le Thunder d'Oklahoma City qui a survolé le 7e match de sa demi-finale face à Denver. Les Denver, ce sont les Nuggets. Ah, ça fait penser aux enfants. 125-93. Si le Thunder s'est facilement imposé, notamment grâce aux 35 points marqués par Shai Gilgeous-Alexander, il lui a fallu le dernier match tout de même de la série pour valider son ticket. Une situation pas évidente, a avoué la star canadienne.
I was nervous, to be honest.
J'étais nerveux, pour être honnête, sachant ce qui était en jeu. Nous avons travaillé si dur pendant toute la saison régulière et ces 82 matchs. On sait que si on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes, tout peut s'arrêter. Mais je pense que cette nervosité m'a motivé et m'a aidé à jouer aujourd'hui, à me donner à fond des deux côtés du terrain. J'en ai fait une force de cette nervosité.
Oklahoma City de Shai Gilgeous-Alexander donc rejoint cette finale de la conférence Ouest pour la première fois depuis 2016. Ce sera face aux Minnesota Timberwolves. Premier match de la série dès demain soir.
Le foot à présent avec un match ce soir en Angleterre.
Avant-dernière journée de Premier League, à Liverpool, déjà sacré champion cette saison, il y a un moment même, se déplace sur la pelouse de Brighton, le 9e. Un match sans beaucoup d'enjeux pour les deux équipes qui attendent les vacances avec impatience. Cette semaine, déjà, les hommes d'Arne Slot, les Reds, ont pu profiter de quelques jours de Farniente à Dubaï en équipe pour célébrer leur titre. Et c'est forcément plus dur de rester motivé après, avoue l'entraîneur néerlandais.
Je ne peux pas me mettre à la place des joueurs, mais c'est vrai que c'est plus dur de les motiver puisqu'on ne se bat plus pour le titre. Contre Arsenal la semaine passée, j'ai vu une équipe compétitive qui s'est battue de la première à la dernière minute. La réalité, c'est que si tu joues à Chelsea, à Arsenal ou à Brighton, ce sont toujours des matchs compliqués. C'est pourquoi je suis content que nous ayons déjà assez de points pour remporter la Première Ligue.
Brighton-Liverpool, début de match 19h temps universel. Crystal Palace vainqueur de la Cup dimanche, samedi soir d'ailleurs plutôt. Et Manchester City, son adversaire malheureux, clôtureront cette 37e journée de Première Ligue demain, mardi, face respectivement à Wolverhampton et Bournemouth en Italie. Un dernier championnat où le suspense reste entier pour l'attribution du titre. La Ligue a décidé ce lundi matin que les deux clubs en lutte, Naples et l'Inter Milan, joueraient leur dernier match du Calcio vendredi soir. Les Napolitains en tête avec un point d'avance recevront Cagliari, 14e, et l'Inter, Côme, 10e. Si le Napoli s'impose, il sera sacré pour la 4e fois de son histoire. À noter que si Naples perd et que l'Inter fait match nul, ce qui est possible, hein, les deux équipes seront à égalité. Et là, il n'y a pas de différence de but qui compte. Il y a un match d'appui qui sera alors programmé pour attribuer le titre. La date choisie est le 26 mai, soit 5 jours avant la finale de la Ligue des Champions que l'Inter doit disputer, on le sait, face au Paris Saint-Germain. Sachez que ce serait la 2e fois dans l'histoire que cela se produirait.
Et on termine avec du tennis et les classements hommes et femmes ce lundi.
Après le tournoi de Rome et au moment où débutent les qualifications pour le tournoi de Roland-Garros, le grand tableau, ça commence dimanche prochain. Chez les hommes, Carlos Alcaraz, lauréat en Italie hier, est 2e devant l'Allemand Zverev, qu'il double donc, juste derrière son adversaire malheureux, l'Italien Sinner. Arthur Fils, premier français, est 14e. Chez les femmes, Iga Swiatek, la polonaise, recule de 3 rangs elle et devient 5e d'un classement dominé par la Bélarusse Arina Sabalenka, suivie des américaines Coco Gauff et Jessica Pegula, victorieuse à Rome. Jasmine Paolini, la si souriante italienne, est 4e.
Merci Olivier Pron. Tout de suite, on retrouve notre invité.
RFI, Le Monde à midi.
Bonjour Rami Abou Jamous.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, lauréat du prix Bayeux des correspondants de guerre. Vous êtes le fondateur de Gaza Press. Avant la guerre, vous travailliez dans le territoire palestinien avec des journalistes occidentaux notamment. Et aujourd'hui, vous couvrez ce conflit inlassablement. Le Premier ministre israélien a annoncé ce matin, on le disait dans le journal il y a quelques minutes, son intention de prendre le contrôle de toute la bande de Gaza, quelques heures après avoir lancé des opérations terrestres qui sont présentées comme de grande envergure, et ça dans un territoire assiégé. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou dit qu'il va laisser entrer un peu d'aide humanitaire, le minimum pour empêcher une famine, dit-il, sans cacher que ça ne résulte que de pressions diplomatiques. Il y a eu aussi ce matin de nouveaux appels à évacuer des zones du sud du territoire. Vous et votre famille, comme la quasi-totalité des habitants de Gaza, vous avez dû fuir à plusieurs reprises. Aujourd'hui, où vivez-vous et dans quelles conditions ?
Aujourd'hui, on est de retour au nord, on est dans notre appart, dans Gazaville, et on vit comme les 2,3 millions de Palestiniens qui vivent d'un massacre et des boucheries tous les jours, surtout la semaine dernière, ou depuis 5 jours à peu près, exactement quand Trump a commencé à faire sa visite au pays de Golfe. Et Netanyahou, apparemment, il voulait montrer au monde entier que c'est pas Trump qui décide, surtout après la libération de prisonniers américains, israéliens, Alexandre, et que c'est une guerre sans pitié. Du coup, ils ont intensifié les bombardements. Tous les jours, il y a plus de 100 morts chaque jour, et surtout la nuit. L'intensification de bombardements, c'est au nord de la bande de Gaza, dans le quartier de Beit Lahia, et aussi à l'est de la ville de Khan Younes. Là, on va voir qu'ils ont demandé l'évacuation de toute la ville de Khan Younes. Donc, on parle à peu près des habitants de Khan Younes, ils sont à peu près 500 000, avec les déplacés de la ville de Rafah qui est obligée de quitter la ville parce que ça a été occupé totalement par les Israéliens. Et donc, on parle à peu près entre 600 et 700 000 personnes qui doivent évacuer. Et justement, c'est cette situation qui fait la panique, la peur chez les gens. Et surtout, maintenant, les déclarations sont bien claires. Avant, les vrais buts de la guerre étaient éradiquer le Hamas, libérer les prisonniers. Aujourd'hui, on le voit clairement, c'est déplacer les 2,3 millions de personnes pour les faire virer de Gaza à l'étranger, déportés à l'étranger. Et donc, même Smotrich, ce matin, le ministre des Finances du gouvernement d'extrême droite israélien, qui a affirmé et qui le dit, il le répète, il faut que toute la population de Gaza parte. Et pour aboutir à ce but-là, donc c'est la famine et c'est le bombardement 24/7 et surtout l'incursion terrestre avec la nouvelle opération des chariots de Gédéon. Et malheureusement, que des massacres, que de la terreur. C'est vraiment un terrorisme d'État qu'on est en train de subir avec une armée qui ne fait pas de distinction. Alors je vous parle, il y a une école qui a été bombardée, on parle de 7 morts. Et malheureusement aussi, il y a une maison de la famille Al-Khor qui a été bombardée il y a 5 minutes au centre-ville de Gaza. Et on parle jusqu'à présent de 7 personnes qui ont été tuées suite à cette frappe. Et encore, il y a beaucoup qui sont toujours sous les décombres parce qu'il n'y a pas les moyens de les faire sortir.
Il n'y a plus de secouristes, il n'y a plus d'hôpitaux.
Les secouristes existent, mais malheureusement, il n'y a pas de matériel. Parce que le matériel a été bombardé, tout ce qui est bulldozer et du matériel lourd a été bombardé par l'armée israélienne. Et donc maintenant, ce qu'ils font pour se faire sortir les gens de ce décombre, c'est avec des pieds, avec les marteaux, avec des haches, et vraiment à façon manuelle, parce qu'il n'y a pas le matériel pour le faire. Et malheureusement, il y a des centaines de personnes qui sont toujours sous les décombres depuis le premier jour de la guerre jusqu'à présent, faute de moyens, et faute qu'ils sont toujours dans des zones qui sont occupées par l'armée israélienne, donc on peut pas avoir accès. Malheureusement, ils sont toujours sous les décombres et avec des conditions de vie très dures. La famine, c'est presque implantée. On est dans la malnutrition.
Oui, c'est ça. Vous avez mentionné ce mot. Aujourd'hui, le chef de l'OMS dit que 2 millions de personnes sont affamées à Gaza. Vous le notez dans l'un des articles que vous publiez pour le média Orient 21. Vous l'avez observé. La famine, elle s'installe déjà.
Oui, c'est pas que j'ai observé, on l'a vu. Nous, on est un peu dans la malnutrition parce que moi, j'ai quelques moyens pour acheter un peu de farine. La dernière fois, j'ai acheté un sac de farine de 25 kilos à 1 000 euros, mais on a la majorité de la population de Gaza, ils n'ont pas cette possibilité-là. Toute la population de Gaza dépend d'aide humanitaire et malheureusement, cette aide humanitaire n'entre pas depuis de 70 jours. La population de Gaza dépend aussi de ce qu'on appelle des cuisines communautaires, les tequillas, et ces tequillas qui restent à fonctionner, malheureusement, il y a quelques tequillas qui restent à fonctionner. Ils ont été bombardés plusieurs fois par l'armée d'occupation. Et malgré ça, on voit tous les jours les gens, les enfants, des femmes qui font la queue juste pour avoir, au meilleur des cas, un plat de lentilles, parce que c'est, y a pas, à part les boîtes de conserve et lentilles, y a rien à manger. Moi-même, personnellement, en ayant les moyens, on a droit juste à deux pas, à pétas de pain. De un matin et un le soir pour moi et ma femme. On laisse un peu pour les enfants parce qu'il n'y a pas suffisamment de farine. Et là, aujourd'hui, on a pu acheter, mais après, on peut pas savoir si on peut acheter ou pas. Et surtout, un seul pas, un seul plat. Et nous, on a de la chance de ne pas passer par les tequillas. Donc, un seul plat, on fait des boîtes de conserve. Mais la majorité de la population, ils sont dans la famine. Et surtout, les enfants, ils sont les plus vulnérables. Ils n'arrivent pas à avoir à manger. Les gens, ils sont surépuisés, que ce soit physiquement, moralement, psychologiquement, à cause de la famine, à cause des bombardements 24/7, à cause des déplacements à chaque fois. Là, vous avez mentionné qu'il y a 2-3 heures, ils ont fait un appel d'évacuation de toute la ville de Khan Younes. Et malheureusement, ces gens-là, ils sont dans la panique, ils ne savent pas quoi faire. Il y en a beaucoup qui ont pris la décision de rester parce qu'ils savent qu'il n'y a pas un endroit sûr et que surtout, dans la carte qui a été diffusée pour l'évacuation, ils demandent des gens d'aller à Al-Mawasi. Al-Mawasi, avant, l'armée d'occupation utilisait le mot humanitaire. Aujourd'hui, ils ne l'utilisent plus parce que, justement, c'est plus humanitaire. C'est bombardé 24/7. La semaine dernière, tous les bombardements, toutes les raids, toutes les frappes israéliennes, ils étaient sur cette zone-là, sur les tentes des déplacés.
Donc, mais c'est les gens, ça, aujourd'hui, quand les gens reçoivent des messages d'évacuation, on parle d'évacuation, mais pour aller où?
Justement, il n'y a pas un endroit. Il n'y a pas un endroit pour abriter, parce que tous les zones plus ou moins considérées sûres a été bombardées. Les hôpitaux, au début, les gens, ils allaient dans les hôpitaux en croyant que les hôpitaux, c'est un endroit sûr et que ils avaient la protection de droit international humanitaire, qu'ils vont pas viser les hôpitaux. Ça a été bombardé, ça a été attaqué. Les écoles de l'endroit, en considérant que les Nations Unies, c'est intouchable, donc on peut pas y aller, ou bien viser les établissements de l'endroit. L'agence onusienne, et malheureusement, ça a été bombardé, ça a été attaqué. La zone humanitaire que les Israéliens prétendent qu'une zone où on peut s'installer en sécurité, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et ça, c'est bombardé 24/7. Et surtout, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de place. Les écoles sont pleines, c'est les hôpitaux pareil. Donc, les gens, ils sont dans la rue. Et quand je dis dans la rue, c'est vraiment dans la rue. Il y a eux, ceux qui ont de la chance, ils ont une tente qu'ils ont amenée avec eux parce qu'ils se sont déplacés plusieurs fois. Il y en a d'autres qui mettent des bâches, il y en a d'autres qui mettent quelques draps, il y en a d'autres qui passent la nuit dans les voitures. Donc c'est des conditions de vie catastrophiques. C'est une catastrophe de jamais vue qu'à Gaza. Et tout ça sous les bombes 24/7.
Est-ce que vous avez déjà envisagé de partir?
Non. Non, nous on a reçu d'ordre d'évacuation il y a 3 jours dans notre quartier, le quartier de Al-Emal Sud. On a eu plusieurs, on était comment dire sur les réseaux sociaux, il y avait la carte de publiée par l'armée d'évacuation ce quartier. Et moi, j'ai pris cette décision de rester, mais je suis pas le seul. Il y a quasi totalité de mes voisins, ils ont pris la même décision. Déjà parce qu'on ne sait pas où y aller. Deuxièmement, on a vécu l'expérience de ces déplacements, c'est le pur immédiat. Et surtout que maintenant, même si on va aller au sud, ce sud-là, il est la cible de frappes israéliennes depuis presque de 20 jours, et c'est 24 heures sur 7. Donc on s'est dit, on va rester, on assume, et là on est resté, et voilà. Parce que il n'y a pas, on va affronter notre sort avec un peu de courage, parce qu'il n'y a pas un endroit où partir. Pour le moment, tant qu'il n'y a pas de soldats sur le sol autour de nous, on a pris cette décision. Mais le jour où on va être encerclé, comme ça s'est passé avec nous au mois de novembre 2023, on était obligé de partir parce que sinon ça va être un suicide. Mais là, pour le moment, on a pris la décision de rester.
Merci beaucoup Rami Abou Jamous d'avoir partagé votre témoignage avec nous et votre travail. Je le disais tout à l'heure, vous avez été récompensé 3 fois au prix Bayeux, le prix des correspondants de guerre, pour le blog que vous tenez sur le site de Lorient 21, pour le journal Ouest France et puis pour un reportage télévision réalisé pour BFM Télé. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous.
Merci à vous.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix.
Pascal Paradou.
Amour solitaire est un compte Instagram qui rassemble des SMS d'amour anonymes. Un compte suivi par plus de 800 000 personnes qui dévoilent leur intimité. Morgane Hortin se définit comme une archiviste de l'amour et elle publie tous ses mots, de joie ou de peine, en mêlant réalité et fiction.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI. 8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
À quelle valeur éduque le sport de haut niveau ? À l'esprit collectif ou à la loi du plus fort ?
Mercredi.
Comment garantir l'autonomie des cantines scolaires ? Quelle place pour les produits locaux ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.